Bon, ben j'espère que vous n'allez pas garder le gâteau quand même. On aimerait tous en profiter. C'est vrai que c'est un magnifique exemple de vivre ce culte famille, tous ensemble, non pas chacun par tranche d'âge, tranche de salami. Comme je l'ai dit au début, en fait, hein, je me suis mal exprimé. J'ai dit que c'était culte pour les enfants et les parents. C'est pas vrai. Merci d'avoir rectifié. C'est vrai que c'est une culte, la grande famille de Dieu, qu'il n'y a pas d'âge dans la famille de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà le temps du message par Joël Eberhard qui nous parlera de la bonté. Je le laisserai s'exprimer là-dessus. Qui est Joël Eberhard? Elle est là, tu veux venir à côté de moi, peut-être? Bon, tout le monde sait qu'elle est agent de la Ligue, ça c'est clair. Qu'est-ce que c'est que la LLB, tu sais? LLB. C'est une sigle, c'est pas Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un peu abracadabra, mais c'est bien, c'est utile. Parce qu'ils sortent un petit guide pour les enfants, pour les adultes, là aussi, des tranches salami, je dois dire. Pour tous les âges aussi. Alors, qui est Joëlle? Alors, elle est enseignante de métier, c'est sa profession. Et après avoir enseigné quelques années, elle est partie avec Jim au Québec. 2 ans, je crois. Hein. Comme Aurélia, elle est aussi partie au Québec faire une école avec Jim. Donc, c'est dans ça de. Elle est institutrice, vous êtes. Hein? Voilà. À Denham, oui. Tu vois, hein? Voilà. Ensuite, à son retour, elle a travaillé quelques années à la Ligue, bien sûr. Puis, elle s'est encore perfectionnée. Elle était à l'Institut biblique d'Emmaüs pendant 2 ans. Ensuite, ça fait un bail déjà, alors maintenant. Depuis 1991, ça fait 20 ans qu'elle travaille à la Ligue. C'est un sacerdoce, hein? Bravo. Et depuis 4 ans, elle est responsable du secteur de l'enfance. Ça, c'est hein, un peu plus récent. C'est un ministère où on reste jeune, hein, on fonce. C'est magnifique. Alors, elle est animatrice de camps dans les églises ou bien au moyen de Ludo-Bible. Tu peux nous dire ce que c'est, Ludo-Bible?
Alors, Ludo-Bible, c'est une roulotte qu'on utilise pour faire de l'animation pour les enfants dans la rue. Donc, si une fois vous voyez passer cette grande roulotte de 8 mètres marquée Ludo-Bible, vous saurez que c'est nous qui partons aux missions.
Ou par exemple?
La dernière mission qu'on a faite, c'était, on a été à la vallée de Joux pendant une semaine avec le service Pâques. Et puis, la semaine passée, on était à Malraix avec l'Armée du Salut pour fêter les 125 ans de l'Armée du Salut. Et dans cette roulotte, il y a différentes choses qui nous permettent d'avoir cette animation, c'est-à-dire des ordinateurs avec quelques jeux bibliques dessus. Et puis, il y a un coin où on peut raconter des histoires, montrer des films. Puis autour, il y a un matelas, des voitures, etc. On peut faire tout un programme pour les enfants.
Parfait, magnifique. Alors, elle va continuer ce travail jusqu'au mois de juillet, puis après, elle va arrêter. Elle va reprendre son métier d'enseignante, qui est aussi un métier parmi les enfants dans la section primaire, hein, c'est ça. Alors, elle est célibataire et elle a 7 petits-neveux, hein, c'est ça, et nièce, un peu grand maintenant. Bon. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Joël est là, on va prier pour elle. Dieu Seigneur, merci parce que tu veux bénir Joël, tu veux lui donner les mots qu'elle a besoin pour nous encourager chacun, les enfants en particulier, que tous soient remplis de ton amour et que nous puissions avancer avec toi, Seigneur, là où nous en sommes. Nous voulons vraiment te voir, Seigneur, ce matin, une fois de plus. Amen.
Voilà. Alors bonjour à chacune, à chacun, bonjour aux enfants. Moi, j'aimerais dire quand même bonjour aux mamans, parce qu'aujourd'hui, quand même, même si c'est commercial, c'est la fête des mères. Alors, bonne fête aux mamans, parce que je crois que c'est bien qu'un jour dans l'année, on se rappelle qu'on a une maman. Je suis dans une classe enfantine, et puis je leur ai fait faire une carte, puis sur la carte, j'ai fait écrire merci. Puis ils m'ont dit, pourquoi merci? J'ai dit, je pense que c'est bien quand même qu'une fois tu dises merci à ta maman pour tout ce qu'elle fait pour toi. Et puis que tu lui dises ta reconnaissance pour ça. Je crois que c'est tout simple, mais ça commence par un merci pour dire à sa maman. Des fois, on lui dit beaucoup je t'aime, puis on lui dit un petit peu moins merci. Alors, c'est bien de le lui dire. Merci, mesdames. Merci aux mamans spirituelles aussi, parce que je crois que c'est aussi important de se rappeler qu'on a peut-être des enfants, mais on a aussi des enfants spirituels. Voilà. Ça, c'était ma petite introduction. C'est vrai que je vais parler de la bonté, parce que c'est quelque chose que j'ai très à cœur, cet élément de la bonté. On pourrait se dire, mais c'est quoi la bonté? Qui c'est qui peut me dire ce que c'est que la bonté? Quand vous regardez dans le dictionnaire, c'est très facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire ce que c'est la bonté? Pardon? Pardon? Oui, mais la bonté en général, c'est quoi? La définition du dictionnaire, vous diriez quoi, les ophos? Que t'on donne de la bonté à quelqu'un, c'est qu'on est commun avec. Pardon? La gentillesse, hein, c'est être bon. Dans le dictionnaire, c'est qualité de celui qui est bon. Hein? Alors, c'est un peu vague tout ça. Alors moi, j'ai trouvé une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, qui parle d'un roi. Il y a quel roi dans la Bible? Il y en a beaucoup. Alors, quels sont les rois de la Bible que vous connaissez? C'est marrant, les enfants, à l'école du dimanche, c'est de la dynamite. Puis quand ils sont au culte avec les parents, j'ai l'impression qu'ils sont inexistants. Vous êtes là? À l'école du dimanche, on vous apprend pas les rois de la Bible? Eh ben, oui. Jésus, ça c'est le roi des rois. Mais il y en a d'autres dans l'Ancien Testament. Oui? Hérode, c'est dans le Nouveau. Puis ce n'était pas un très bon roi. Oui. David, hein, le roi David, exactement. Alors on pourrait dire Salomon, Saül, et puis il y a tous les noms un peu bizarres, hein, Joachim, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est David dont je vais vous parler. Et puis David, ben, il y a une super histoire. C'est laquelle? Celle qu'on connaît la mieux depuis l'âge de 3 ans, parce qu'on nous la raconte chaque fois à l'école du dimanche. C'est quoi? On ne vous l'a pas raconté, il y a vous. Gabriel. Mais oui, David et Goliath. Alors, c'est ça que je vais vous raconter ce matin? Non, parce qu'on va dire, je la connais. Oh, hein? Non, pas du tout. C'est une autre histoire. Mais David, il avait un super copain. Est-ce que vous savez comment il s'appelait, le super copain de David? Oups. Qui sait comment il s'appelait le super copain de David? Léa, tu sais? Tu sais plus. T'as oublié. Hein? Puis Caroline, elle sait? Non. Et puis, je suis sûre qu'Alexandre y connaît. Tu connais pas? Eh ben mince. Mais son voisin, s'il connaît pas, je serais très surprise. Tu connais pas le meilleur ami de David? Eh bien, c'est dommage parce que tu portes son nom. C'est Jonathan, exactement. Hein? David et Jonathan. Et puis, quand à un moment donné, je ne vais pas tout raconter au détail, mais à un moment donné, David était en danger. Et puis, il a dû fuir devant le roi Saül. Et ça a été la séparation entre David et Jonathan. Mais avant de se séparer, Jonathan a demandé à David. Il lui a dit, écoute David, on est amis. Alors promets-moi une chose, c'est que s'il m'arrive quelque chose, le jour où toi tu seras un roi, promets-moi de prendre soin des gens de ma famille. Parce que Jonathan savait très bien que le jour où David devenait roi, il avait un droit, c'était de rassembler tous les membres de la famille de l'ancien roi et de les zigouiller. C'était son droit. Comme roi, il avait le droit de le faire. Alors Jonathan, c'est ce qu'il dit. Il dit, ne les tue pas, mais prends soin d'eux. Et David, il fait un serment. Il est fidèle et il lui dit, je te promets que je prendrai soin des membres de ta famille. Les années ont passé, Saül et Jonathan ont été tués, et puis voilà qu'un jour, eh bien David est monté sur le trône. D'Israël. Et un jour, David, alors qu'il est roi d'Israël, il se pose des questions. Et puis il dit, en fait, est-ce qu'il existe encore des gens de la famille de Saül et de Jonathan? Ah bon? Pourquoi est-ce qu'il veut savoir cela? Quelle est son intention? Tu aurais une idée, toi? Hein? Eh bien, il avait le choix. Il pouvait se dire, ben, je suis le roi maintenant. Hein? Maintenant, tous ces gens qui m'ont fait du mal, je ne les veux plus. Zoup, je les égouille. Alors, il appelle un serviteur et puis il dit, est-ce qu'il existe encore des gens de la famille de David, de Jonathan? Et puis, on lui dit, oui, il y a un vieux serviteur qui est resté ici dans la ville. Il dit, faites-le-moi chercher. Alors, le serviteur arrive et puis, il lui dit, Tsiba, dis-moi donc, est-ce qu'il existe encore des gens de la famille de Jonathan et de Saül? Et puis Tsiba, il ne sait pas s'il ose le dire, parce qu'il ne sait pas quelles sont les intentions de David. Mais comme il est devant le roi, il dit, ben oui, je sais qu'il existe encore dans une ville près de Jéricho, un fils de Jonathan. Oh, il porte un nom bizarre, ce fils de Jonathan. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'église qui s'appelle comme ça. J'espère pas pour lui, parce que déjà écrire ce prénom à l'école, aïe, aïe, aïe. Hein? Il s'appelle, est-ce que quelqu'un sait? Mephibosheth, ah, les aînés. Hein? Elle est plus jeune peut-être. Mephibosheth. Et il lui dit, mais Mephibosheth, il est dans une ville là-bas, tout au loin. Et puis, il se cache à quelque part. Parce que Mephibosheth, il a un handicap. Il est handicapé. Quand c'était un tout petit garçon, sa nourrice le portait dans les bras. Et quand elle a appris la mort de Jonathan et de Saül, elle est partie avec, elle s'est encoublée, elle a laissé tomber le bébé. Et le bébé, il est devenu paralysé, handicapé des jambes. Donc, il est là-bas. Et ce Mephibosheth, je dirais, il y avait deux choses difficiles pour lui. D'une part, il était de cette famille de Saül et de Jonathan, donc il risquait de se faire tuer. Et d'autre part, il était handicapé. Et à cette époque, à l'époque de Jésus, mais même bien avant, quelqu'un qui était handicapé, c'est quelqu'un qui était rejeté, qui n'avait plus de dignité, qui était méprisé et qui n'avait pas le droit d'aller au temple. Il perdait tous ses droits parce qu'il était handicapé. Et Mephibosheth, c'est comme ça qu'il vivait dans cette maison. Alors vous imaginez un peu le poids qui devait peser sur les épaules de Mephibosheth. Toute la peur de se dire, oh, mais si le roi me retrouve et puis qu'il veut me faire du mal? Et puis le mépris et le rejet des autres. Ça, c'était Mephibosheth. Et voilà que David, tout à coup, il dit, eh bien, j'aimerais bien que vous alliez me chercher ce Mephibosheth. J'aimerais bien le voir ici, dans mon palais. Ah bon? Pourquoi? Je vais vous lire pourquoi. Et je trouve ça extraordinaire. Il dit, oups, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais agir envers lui comme Dieu lui-même avec bonté. je veux agir envers lui comme Dieu lui-même, avec bonté. » Ah bon ? David était fidèle à sa parole. Hein ? Il a tenu parole. Il n'a pas dit « Maintenant, j'ai le droit, puis je fais ce que je veux. » Ben non. « Je veux agir envers lui avec bonté comme Dieu lui-même. » Alors, Tsiba, il est parti. Il est allé retrouver Mephibosheth dans sa maison et puis il l'a amené au palais du roi. Et Mephibosheth, eh bien, d'une part parce qu'il était handicapé, ensuite il était chez le roi, il s'est vraiment prosterné devant lui. Et puis David, quand il l'a vu, je trouve extraordinaire. Je ne sais pas, c'est le texte de la Bible qui le dit, hein, mais moi, j'y mets un certain ton. Est-ce que c'est le ton que David a mis? Je ne sais pas. Mais c'est ce que j'imagine que David a dit quand il a vu Mephibosheth. Quand il est arrivé, David l'a vu et puis il lui dit « C'est toi, Mephibosheth ?» L'air de dire « Mais comme je suis content de te voir, c'est génial que tu sois ici. Ça me fait plaisir que tu sois là. » Ici, dans mon palais. David, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a cherché Mephibosheth. Pour lui, c'était important de le retrouver et de tenir la parole qu'il avait donnée. Ensuite, la deuxième chose, il l'a accueilli. Il a accueilli Mephibosheth. C'est génial, tu es là. Mephibosheth, il devait se sentir mal. Qu'est-ce qu'il devait se penser en lui, Mephibosheth? Hein? Qu'est-ce qu'il aurait pu penser, Mephibosheth? Oui? Ben oui, qu'il allait se faire tuer. Donc, vous imaginez, quand on lui a dit, le roi David veut te voir. Oh, la peur qu'il a pu avoir en lui. Se dire, mais ça y est. Je vais me faire tuer, ma vie va être finie. Et puis, il reçoit un accueil tout différent où un David, il va accueillir ce Mephibosheth d'une manière extraordinaire. Ça, c'est déjà un signe de bonté. Hein? Parce que être reçu par le roi en personne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne s'arrête pas là, David. Il lui dit, tu sais, Mephibosheth, je vais te dire plusieurs choses. La première chose, c'est que tous les territoires qui appartenaient, les terrains qui appartenaient à ta famille, eh bien, je vais te les redonner. Ils sont à toi. Je pourrais les garder puisque je suis le roi, mais je vais te les redonner. C'est les tiens. Tu peux les avoir. La deuxième chose, c'est que j'aimerais plus que tu te sois caché près de Jéricho. J'aimerais que tu viennes habiter dans mon palais. J'aimerais que tu aies ta maison dans la maison du roi, dans mon palais. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que j'aimerais que tu viennes manger tous les jours à ma table. C'est-à-dire que tu viennes faire partie de ma famille. Ça, c'est ce que je t'offre, Mephibosheth. Si vous aviez été à la place de Mephibosheth, comment vous auriez réagi? Comment vous auriez réagi? Tu aurais réagi comment, toi? Hein? Je suis plus ton prénom, mais comment tu aurais réagi? Tu aurais été content, hein? Oh, moi, j'imagine, j'aurais dit, ouais, trop cool, ce roi David! Il est génial! C'est super! Hein? Tu es d'accord? Moi, je suis d'accord avec toi. Eh bien, Mephibosheth, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, mais je ne mérite pas tout ça. Je suis comme un chien mort. Je suis trop nul. Regarde qui je suis. Est-ce qu'on n'est pas un peu des fois comme ça avec Dieu? Quand Dieu il veut nous faire des cadeaux, il veut nous dire « je t'aime », il veut nous dire « mais t'es super pour moi », puis qu'on répond « mais moi je ne mérite pas, je suis nul, je ne vaux rien hein? ». Mephibosheth, c'est exactement ce qu'il a fait à l'égard de David. Il lui a dit, je suis nul, je ne vaux rien. Alors, il a dû dire ça à son serviteur. Il a dû dire, tu sais, je lui donne toutes ces choses, mais c'est toi qui vas t'en occuper. Et la Bible nous dit, eh bien, que depuis ce jour-là, Mephibosheth, il a habité dans le palais du roi et il allait manger tous les jours à la table du roi. Alors cette histoire, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle me montre une chose. On parle de la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui flotte comme ça dans l'air. Dieu est bon, c'est génial, ah, c'est merveilleux. Il y a un chant qui dit Dieu est bon, c'est super. Mais la bonté de Dieu, elle passe à travers nous. David a été un montreur de la bonté de Dieu pour Mephibosheth. Si David avait dit à Mephibosheth, « Eh, salut mon gars, je t'ai fait venir pour te dire que Dieu est bon. » Est-ce que Mephibosheth aurait compris ce que c'était que la bonté de Dieu? Qu'est-ce que tu crois? Si je te dis seulement « Dieu est bon », est-ce que tu aurais compris ce que c'est qu'il aurait compris? Pas vraiment. Hein? Je crois qu'il y a eu dans l'attitude de David des gestes, des choses qui ont manifester concrètement cette bonté de Dieu. Et ça, c'était pour autrefois, mais pour aujourd'hui. Dieu, je crois qu'il continue à nous chercher, à nous dire, « Hé, j'aimerais que tu comprennes qui je suis. » J'aimerais te manifester cette bonté. J'aimerais que tu sois avec moi tous les jours. Et pourquoi il l'a fait? À cause de Jésus. À cause de ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a été celui qui a manifesté la bonté de Dieu le plus extraordinairement possible. Et puis tout ça, eh bien Dieu l'a fait pour moi. Pas moi, Joël, mais chacun pourrait dire la même chose. Chacun pourrait dire « Dieu me cherche, Dieu m'accueille. » Et quand je me sens pas top, comme pouvait sentir Mephibosheth, je suis nul, je vaux rien, tout le monde me dit que j'arriverai à rien, ou bien j'ai fait « aïe, 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 hein ?» Je suis toujours avec ce caractère-là. Mais quand je vais vers Dieu, que je suis peut-être un peu comme un Mephibosheth, où des fois j'ai l'impression que je dois m'écraser, mais Dieu il me dit, « Waouh, c'est génial, ça me fait plaisir de te voir, t'es super. » Il ne va pas encore m'écraser, il va m'accueillir. Et puis dire, « Mais quelle joie de t'accueillir dans ma maison. Hein? » Et puis ensuite Dieu, eh bien, il veut me combler de cadeaux. Quels sont les cadeaux que Dieu veut me donner? Qui c'est qui a une idée? C'est quoi les cadeaux qu'il nous donne? Oui? Le bonheur, oui? Qu'est-ce qu'il nous donne encore? Oui? La joie, sa joie, exactement. Et puis quoi encore? Oh ben, c'est pas un Dieu riche alors, hein? Oui, Léa. Mais oui, sa paix. Hein, quand je suis à l'école et puis que j'ai une interrogation ou quand je suis dans une situation où tout à coup on a l'impression que c'est la tornade, Seigneur, merci pour la paix que tu me donnes. Merci parce que tu veux garder mon cœur en paix dans cette situation-là. Hein? Dieu, il a plein de choses en réserve. Est-ce qu'on est comme Mephibosheth à dire « Ouais, je ne mérite pas » parce que tu vois, Jésus, je n'ai pas fait assez ci, je n'ai pas fait assez ça. Oh, puis avec mon caractère, mais je ne comprends pas, ce n'est pas possible. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il regarde. Hein? À cause de Jésus et de ce qu'il a fait, Dieu peut avoir cette attitude avec moi. Et quand j'accepte et que je me laisse remplir de cette bonté de Dieu, cette bonté, elle va déborder sur les autres. Et on va se dire, moi j'aimerais dire, pour David, certainement que ça lui a coûté des choses de manifester cette bonté. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Est-ce que vous croyez que ça lui a coûté quelque chose ou que c'était comme ça, oh, fast cut? Hein? Qu'est-ce que ça lui a coûté à David? Les grands, vous pouvez aussi répondre. Hein? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Oui, d'accord, mais de manifester cette bonté, qu'est-ce que ça lui a coûté? Hein? Ses territoires, parce qu'il en a perdu des territoires. Donc ça lui a coûté des territoires, du courage, peut-être le regard des autres. Hein? Comment? Qu'est-ce qu'il sait que ce roi qui accueille un boiteux à sa table, en plus le fils de ses ennemis? Hein? Peut-être le qu'en dira-t-on, hein? Il s'en est moqué. La fidélité à sa parole, pas facile d'être fidèle quand on dit quelque chose. Tout ça, c'était quelque chose qui, à quelque part, lui a coûté. Mais tout ça pour dire, je veux te montrer la bonté de Dieu. Je veux être concret. Je veux pas seulement être bon dans mes paroles, je veux être concret. Et moi, j'aimerais vous demander déjà, comment est-ce que je reçois cette bonté de Dieu? Est-ce que je suis toujours en train de m'humilier? Seigneur, je ne mérite pas. Ou bien, Seigneur, oui, merci pour ta bonté. Vous savez que la bonté, c'est un fruit de l'esprit. Hein? Dans les fruits de l'esprit de Galates, c'est la bonté. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui prie pour avoir des fruits? Hein? Vous avez déjà vu un pommier qui dit « Ah, oh, j'aimerais bien avoir des pommes, j'aimerais avoir des pommes, donne-moi des pommes !» T'as déjà vu ça, toi? Non, hein? Comment elles viennent, les pommes? Comment elles viennent? C'est parce que l'arbre, il est nourri depuis les racines jusqu'en haut, et puis les fruits, ils viennent. Quand on se laisse nourrir depuis les racines, quand on est avec Jésus, qu'on laisse remplir de sa bonté notre cœur, la bonté, elle est là. Et on peut la manifester, elle peut déborder sur ceux qui nous entourent. Puis vous direz, ouais, mais cette bonté, est-ce qu'elle est toujours là, la bonté de Dieu? Elle est toujours là, la bonté de Dieu? Tu crois? Ouais? Léa? Oui, hein? Des fois dans la vie, on sent un petit peu raplapla, puis on dit, ah, oh, mais Seigneur, c'est pas possible. Là, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'assiste. Tu viens m'aider? Toi, viens. Hein? Tiens. Et puis, on se dit, oh là là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'assiste. Ouais, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta bonté. Alors merci, puis on va puiser cette bonté, puis on va la redonner plus tard. Et puis on se dit, oh là là, cette fois j'ai tout donné. Toute la bonté que j'avais au fond de moi, je l'ai redonnée. Ah, c'est pas vrai, il y en a encore. Est-ce qu'il y a encore? Et puis on se dit, non, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là, j'ai été bon, j'ai fait mes efforts, ce n'est pas possible. Et puis on se dit, non, mais il y aura plus de... Voilà, merci, ça m'arrange. Il n'y aura plus de bonté. Hop, il y en a encore en réserve. Et puis on se dit, non, mais voilà. Hein. Cette bonté de Dieu, il y a un verset qui nous dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Et chaque matin, on peut aller vers Dieu, dire « Seigneur, merci pour ta bonté, remplis mon cœur de cette bonté. Et moi, je veux la manifester, et j'en aurai encore pour mes copains d'école, et j'en aurai encore pour mes voisins, et j'en aurai encore pour mes collègues de travail. » Hop, encore un peu de bonté. Et puis dire « Seigneur, c'est génial, parce que ta bonté, il y en a toujours et encore. Et je peux, chaque fois que j'en ai besoin, je peux venir puiser, me laisser remplir, et elle va déborder. » Alors, ce que je vous invite à réfléchir maintenant, 30 secondes, c'est de dire, quelles sont les gestes ou les actes de bonté que je vais manifester aujourd'hui, demain, après-demain, à l'égard de mes copains d'école. Parce que quand je leur montre de la bonté, eh bien, c'est la bonté de Dieu que je leur manifeste. Comme Jésus, comme David l'a fait avec Mephibosheth. Je veux te montrer de la bonté comme Dieu est bon envers toi. Il y en a encore de la bonté, tu crois? Oui, il y en a encore. Hein? Hop! Hein? Et on n'a jamais fini. Parce que Dieu ne se lasse pas. Sa bonté se renouvelle. Et je terminerai par cette histoire à laquelle j'ai pensé, une histoire vraie qui se passe en Afrique. Et en Afrique, il y avait, je suis navrée de dire, mais c'était dans un camp de la Ligue, au Zimbabwe. Et puis, là, il y avait des camps. Et puis, c'est un peu spécial parce que, les enfants, ils viennent, ils n'ont pas des sacs de couchage, mais ils viennent avec du matériel. C'est-à-dire, ils viennent avec un drap, une couverture, etc. Et dans ce camp, il y a un enfant africain qui est venu. Et lui, il n'avait rien du tout parce qu'il était pauvre. Rien au niveau du matériel pour dormir. Hein. Pas de drap, pas de sac de couchage, rien du tout. Quoi. Et voilà que tous les copains avaient leur couverture et lui n'avait rien du tout. Et il y a un enfant qui allait vers lui et qui lui a dit, tu sais, t'as pas de couverture, eh bien tiens, je te donne ma couverture, tu peux la prendre. Et cet enfant, il a été tellement touché par cet acte tout simple, ça a ouvert son cœur. Quand on lui a parlé de la bonté de Dieu, il a compris concrètement ce que ça voulait dire. Cet enfant, il a grandi et un jour, il est devenu le directeur de la Ligue au Zimbabwe. Un petit acte de bonté peut produire des grands fruits. Et des fois, on passe à côté de choses toutes simples pour dire, voilà, moi, une fois, j'ai dit, Seigneur, je veux voir ta bonté. Alors, j'ai passé ma matinée, et puis je suis arrivée à la maison à midi, puis il y avait ma petite voisine. Puis elle est venue vers moi. Elle m'a dit, Joël, je peux te faire un bisou? C'est un bisou gratuit, pas contre quelque chose. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, merci pour ta bonté que j'ai pu voir aujourd'hui. Un acte d'une petite fille qui m'a juste fait un bisou comme ça. Alors apprenons aussi à voir la bonté de Dieu dans les toutes petites choses. Et soyons des montreurs de la bonté de Dieu. Je vous invite à prier et puis ensuite je vous expliquerai encore une petite chose que j'ai faite. Seigneur, merci parce que ta parole nous dit que tu es un Dieu qui est infiniment bon, que ta bonté se renouvelle chaque matin. Merci parce que nous pouvons venir puiser auprès de toi cette bonté dont nous avons besoin. Mais merci pour toutes les personnes que tu mets autour de nous pour nous manifester ta bonté. Que nous sachions recevoir cette bonté, mais que nous soyons aussi de ceux qui sachions la montrer à ceux qui nous entourent. Que chaque jour, nous puissions recevoir ta bonté, mais aller vers les autres et leur montrer que tu es bon pour eux. Merci parce que nous savons que nous ne serons pas déçus. Amen. Voilà. Alors, je vous ai préparé ici. C'est des aimants que vous pourrez prendre. Je pense qu'on va dire un par famille. Et puis, il y a une question. À qui pourrais-je montrer de la bonté aujourd'hui? Se poser cette question. Et c'est des gestes tout simples, des choses toutes simples, où les gens pourront, à travers cette bonté, comprendre que Dieu les aime et que Dieu est bon pour eux.